Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Légende Podcast.
Alors bonjour, je m'appelle Sophie, je suis pilote de ligne et je viens vous raconter mon extraordinaire vie.
Eh bien, bienvenue Sophie.
Merci.
Merci Sophie qui nous a envoyé un email il y a quelques jours avec son numéro de téléphone. Tiens, je vais refiler les claps. Et qui nous a proposé de venir raconter ta vie, des anecdotes de vol. Il t'est arrivé plein de choses, j'en ai noté plein. Hein. T'as vécu des turbulences, c'est le truc habituel, je regarde.
Quelques-unes.
On fait des décollages, des atterrissages, si t'imagines. T'es devenue la première femme commandante de bord à Abu Dhabi, la compagnie Etihad Airways, en 2010. Mais tu vas nous raconter, tu t'es retrouvée avec le cockpit retourné, des hôtesses blessées qui tapent le plafond, un trou dans ton avion frappé par la foudre, des douleurs de partout. Enfin, t'as vécu quand même des anecdotes.
Oui, ça arrive.
Qui donne envie d'être pilote d'avion qu'à moitié. Non, en vrai, c'est incroyable. Ça fait combien d'années que tu es pilote d'avion ?
Alors, j'ai commencé mes études, entre guillemets, à 19 ans, donc directement après le bac. Enfin, quasi. J'ai fait 3 mois d'université dans un amphi à 650 personnes. Et j'ai dit, c'est pas pour moi. Et voilà, donc je suis partie. Je baignais un peu déjà dans le milieu de l'aviation par mon beau-père.
Pourquoi ?
Mon beau-père, en fait, le mari de ma mère, était dans l'aviation, il avait une toute petite compagnie à l'époque avec un avion cargo. Il volait sur l'Afrique, donc voilà, c'est le week-end on allait à l'aéroport. Enfin, c'était vraiment minime.
Ouais, t'étais un peu là-dedans, quoi.
Ouais, mais c'était pas mon objectif à la base. Moi, je voulais être criminologue.
Ah bon ?
Ah, j'adorais ça. J'adorais.
J'aurais pu te recevoir aussi, hein. Tu sais, c'est un deuxième métier.
Et j'ai une nature quand même assez aventurière, donc...
Ça se sent.
Ouais, je suis sagittaire, alors apparemment les sagittaires sont de nature aventurière, bref.
Et en tout cas, si vous voulez faire comme Sophie et passer dans l'émission, vous m'envoyez un email avec votre numéro de téléphone et quelques lignes d'explication sur contact@legendegroup.fr, voilà, ça s'affiche sur l'écran. Et vous êtes les bienvenus si vous avez un métier avec des anecdotes à raconter ou si vous arrivez quelque chose dans votre vie et que vous voulez venir nous en parler, vous êtes les bienvenus aussi. Et merci de nous écouter de plus en plus nombreux en podcast audio aussi, on est numéro un des podcasts audio en ce moment, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, le tournage. On est sur Spotify, sur Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et on aime bien mettre en audio parce que ça permet d'écouter, par exemple, ouais. En avion. Tu vois, moi, j'adore quand je pars en avion, m'écouter des podcasts et télécharger avant, mettre le casque et écouter des podcasts.
Moi, j'écoute dans la voiture, les podcasts, c'est top, quoi.
Tu es pilote d'avion, j'avais noté, du coup, depuis 28 ans. Je te demandais avant, t'as 47 ans aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent.
Ça se dit pas, ça.
Mais ça se voit pas, donc faut...
C'est les heures de vol.
Pourquoi t'es devenue pilote, du coup ? T'échoues en fac de psycho, c'est ça ?
Alors, j'ai commencé la fac de psycho, je l'ai faite 3 mois. Ça m'a... Enfin, voilà, je me sentais... C'était complètement impersonnel. La matière, OK, mais la façon d'étudier le truc, j'ai dit non. Donc, je suis partie. En fait, j'ai eu un deal avec mon beau-père, qui, lui, était américain. Il me dit, voilà, je te paye tes études... tu pars aux États-Unis, son rêve c'était que je vienne pilote FedEx, tu fais tes études aux États-Unis, tu finis, tu viens, tu pilotes pour moi et tu me rembourses. Donc c'était génial.
Ça coûte cher les études de pilote.
Hein. Si on veut faire ça en Europe, c'est à peu près 130 000 euros. Quoi. Voilà. Ça coûte très très cher, c'est pour ça que les salaires sont en conséquence, enfin les risques qu'on prend, tout ça. Quoi. Voilà. Donc le deal était parfait, j'ai fait mes études, je suis revenue, j'ai eu mon travail direct. Et puis après, bon, ça c'est compliqué. J'ai fait autant d'heures de vol en fait en pratique, ce qui m'a donné accès à faire le cours théorique directement de pilote de ligne. Et après, j'étais lancée dans la carrière.
Tu commences à quel âge à piloter ton premier avion ?
Alors le premier, donc on fait
aux États-Unis du coup.
Oui, aux États-Unis.
En Géorgie.
Oui,
puis
on fait de la petite aviation, ce qu'on appelle sur les Cessna, parce que ça coûte moins cher, parce qu'on doit totaliser 250 heures pour avoir la licence commerciale. Je devais avoir 18 ans.
Ah ouais, c'est vrai.
J'ai eu mon permis, enfin mon permis, ma licence de pilote privé avant mon permis de conduire.
C'est vrai ?
Oui, c'était rigolo.
Et en 99, tu vas partir en Suisse pour passer ton ATPL, c'est ton certificat pour devenir commandant de bord. Donc là, tu as fait tes études en gros aux États-Unis, tu reviens. Combien de temps il faut entre le premier jour où tu prends une leçon et le moment où tu commences à piloter ?
De la première leçon où on est lâché pour être pilote de ligne, je veux dire à peu près 3 ans, maximum 3 ans, ouais.
Tu arrives à avoir ton brevet, du coup, tu le réussis,
oui.
Pour être pilote de ligne.
Oui.
D'abord, on devient pilote et au bout de quelques années, avec l'ancienneté, on devient commandant de bord.
Exactement.
Vous êtes deux pilotes dans un avion, toujours par deux, au cas où il y en a un qui a un problème. Oui. J'imagine qu'il y a un truc comme ça. Et puis même pour prendre des décisions, ça doit être à deux.
Et puis parce qu'il y a beaucoup de travail, donc à deux, c'est...
Et donc, tu as le commandant et l'autre qui est...
Copilote.
Copilote. Mm-hmm. Y a toujours un mec qui est plus expérimenté. Tu deviens commandant avec les années. Tu vas nous expliquer ça pour comprendre, parce que c'est encore un métier à part. En tant que copilote, quand tu arrives, tu es forcément copilote, tu n'es jamais le commandant de bord dès le début du coup. Est-ce que tu es déjà tombé sur un pilote, un commandant de bord, cette fois-ci, ton chef, un peu bizarre, un peu dangereux ?
Alors moi, j'ai eu une expérience qui était... on a toujours tendance à faire confiance au commandant de bord puisqu'il a plus d'expérience, puisqu'il a été testé, il a été... Voilà. Un jour, j'arrive en vol et on part sur un aéroport très difficile au Pakistan qui s'appelle Peshawar. En fait, c'est dans les montagnes. L'approche est difficile. Bon, bref, c'est de nuit, il y a la mousson, enfin voilà. Et le commandant, je le connais pas. Je crois qu'il était bulgare ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc, on part. Et sur la route, en fait, il y a des montagnes quand on arrive au Pakistan. Et au loin, on voit une espèce de carré de lumière. Et il me dit, il y a un ovni. Et je dis, moi, initialement, je regarde en haut. Il me dit, non, regarde là-bas, devant. Mais je dis, là, devant, c'est en dessous de nous. Il me dit, non, mais c'est un ovni. Enfin, bon, bref, je relève pas trop, je laisse passer. Et puis, en fait, on fait l'approche à Peshawar. Et puis, il descend pas, il tourne pas. Enfin, bon, bref, j'ai dû reprendre les contrôles. On s'est calmé au sol, on est revenu. Au retour, bon, il me racontait des choses un peu bizarres. Bon, j'ai laissé passer en me disant, c'est peut-être de la compréhension fatiguée, je ne sais pas. Quelques semaines plus tard, je rentre dans la salle de briefing, je vois un grand livre sur la table et en fait, tout le monde mettait ses condoléances. Il venait de mourir d'une tumeur au cerveau.
Putain.
Ouais.
Ah, waouh.
Donc, je pense que
il
ça...
Ouais. Incroyable. Ouais. Il le laissait piloter...
Mais il savait pas.
Ah, waouh.
Il savait pas, ça devait être les premiers symptômes. J'imagine. Parce que c'était incohérent, ce qu'il racontait.
Waouh. Il voyait des trucs, etc.
Il voyait un ovni, mais déjà, en plus, c'était au sol. Donc, ça n'avait pas de sens.
Il n'y a pas de contrôle sur les pilotes. Est-ce qu'il y a un contrôle d'alcoolémie, par exemple ? Est-ce qu'avant de piloter, vous faites chacun un check ?
Non, alors, c'est aléatoire, du moins en Europe. Je sais qu'il y a des compagnies en Inde, par exemple, c'est avant chaque vol, au départ d'Inde. Chez nous, c'est aléatoire. Donc, on arrive au briefing et puis on est appelé pour aller alcotest ou test d'urine pour les drogues.
Sans donner de nom ni de compagnie, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des gens boire avant de décoller, des pilotes ?
Les voir, non. Mais là, récemment, il y en a encore un qui vient de se faire prendre la semaine passée.
C'est connu ?
Ça arrive, oui.
Ça arrive. Ouais. Il y en a qui boivent des petits coups avant de décoller ?
Bah, qui boivent la veille, j'imagine.
Ah, la veille ?
Ouais, avant de décoller. Enfin.
Non, ouais, faut être un peu bête.
Ouais. Mais la veille, oui, et puis il doit avoir des restes.
Ça va pas me rassurer sur le fait de prendre l'avion, cette émission.
C'est pour ça qu'il y a des contrôles.
Il y en a qui prennent de la drogue. Est-ce que t'as déjà entendu parler, toi, de pilotes qui se prennent un peu de drogue ?
Alors, de la drogue, non. Après, ça dépend de comment, quel genre de drogue, parce que eux, ils considèrent. En fait, on a le droit de prendre une seule chose. Je pense que c'est du collyre ou du spray pour le nez ou je ne sais plus, même un Panadol, ils nous demandent pourquoi on prend ça, quoi. Ouais. Donc, après, si on parle cocaïne, héroïne et tout ça, non, enfin, ça, c'est...
Non, mais ça,
c'est hors de question.
Je ne compte pas avec un pilote qui a pris du crack. Hein. là, vous voyez un cockpit d'A380, d'Airbus A380, là, qui s'affiche sur l'écran. Il y a beaucoup de boutons partout. Est-ce qu'on se sert vraiment de tout en tant que pilote ?
Normalement, non.
c'est ces boutons,
je veux dire, on fait un setup quand on rentre dans le cockpit, on appuie sur les boutons, on met l'avion en configuration, et puis après, s'il y a une panne, en fait, ces boutons nous permettent de mettre des pompes off ou des choses comme ça, mais normalement, on touche à rien.
Est-ce que vous avez le droit de faire des jeux entre vous? Est-ce que quand on est en l'air, c'est une vraie question, j'ai de faire les rumeurs après, les rumeurs sur le métier de pilote. Moi, j'ai toujours entendu ça, c'est qu'à un moment donné, tu mets le pilotage automatique quand t'es en l'air, et puis tu peux te faire des trucs, tu peux jouer aux cartes, tu peux vivre.
Officiellement, non. Mais oui, bien sûr, on aurait le temps. En fait, il y a des périodes en vol.
Il se passe des heures où tu fais rien.
Voilà, par exemple, quand on faisait des Abu Dhabi-Sydney, dès qu'on quitte Oman, on a 11 heures d'océan. Il n'y a pas de radio, la radio c'est par satellite, on reçoit des messages sur l'ordinateur, s'il n'y a pas de météo, il ne se passe absolument rien.
T'as déjà fait le tour de la Terre dans les deux sens?
J'ai déjà, sur un mois et demi, fait de l'Abu Dhabi, Los Angeles, en vertical pôle nord, hein, c'est le chemin le plus court, ce que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'on vole des grands cercles en fait. Sur une carte, on aurait envie d'aller là-bas, mais en fait c'est plus court par là. Donc Abu Dhabi, Los Angeles, puis revenir à Abu Dhabi, repartir à Tokyo, revenir... Enfin,
oui, bon, t'as déjà fait en gros le tour
du monde. En rond comme ça, non.
Non, jamais.
Non.
Donc tu peux pas nous confirmer que la Terre est ronde.
Ah non, mais j'ai une amie pilote de ligne, je vais lui demander d'envoyer, elle est persuadée que la Terre est plate.
C'est vrai?
Elle est extraordinaire.
C'est quoi? Non, mais je vais
l'envoyer.
Blague, parce qu'on est en train de préparer une émission avec un platiste. Il y a 8% des Français qui pensent que la Terre est plate, ce qui est quand même beaucoup.
C'est énorme.
C'est énorme. Et dès que j'ai quelqu'un qui peut prouver, peut le dire, je lui fais dire que la Terre est bien ronde.
Ah, mais elle est hallucinante. Parce
qu'il y a 8% de gens à convaincre. C'est énorme, 8%.
Et pourtant, elle était pilote de ligne.
Et pourtant, elle était pilote de ligne.
Eh oui.
En tant que pilote de ligne, tu vois bien que la Terre, elle est ronde.
Elle a attendu d'être à la retraite pour faire... Elle passe sur YouTube aussi. Enfin,
mais non.
Elle est hallucinante.
Si vous êtes platiste... Et que vous voulez passer, mais zéro vanne, hein. Il n'y aura pas de jugement de ma part, au contraire. Moi, je serais trop chaud pour discuter.
C'est super intéressant.
Je pense que la discussion est obligatoire dans tout ça. Est-ce qu'il y a des bizutages pour les pilotes d'avion qui se retrouvent au début en carrière?
Alors, c'est surtout pour les hôtesses, en fait. Les jeunes copilotes, on leur fait aller chercher la clé de l'avion. Il n'y a pas de clé à l'avion, en fait.
Ah oui.
Non, voilà. Mais c'est toujours, va chercher la clé de l'avion. Mais en fait, c'est connu maintenant, donc on les aide moins en moins. Le bizutage connu pour les hôtesses, c'est d'aller les faire sauter en business class pour faire descendre le train, quoi.
Attends, c'est-à-dire?
Bah en fait, on leur dit que le train a du mal à descendre, mais ça, c'est vraiment les jeunes hôtesses.
Ah, le train d'atterrissage.
Le train d'atterrissage, pardon, ouais. Et en fait, comme le train avant se situe au niveau des business class, on les fait aller dans le couloir et sauter pour...
Ah, c'est vrai?
Ça marche de moins en moins.
Les rumeurs sur les pilotes d'avion, il y en a beaucoup sur Internet. Tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est des rumeurs plutôt rigolotes à chaque fois, mais pas que, hein. Il y a des rumeurs vraiment sur tout. Est-ce que les pilotes peuvent vraiment dormir en vol?
Oui. C'est officiel.
Wow. Ils ont l'autorisation.
En fait, on a l'autorisation sur un temps restreint. En fait, je crois que c'est 40 minutes.
Mais un réveil, quoi. Mais un réveil.
Non, parce que le rythme a été étudié. En fait, il faut l'endormissement, il faut le réveil, il faut 20 minutes après pour reprendre les esprits. Et ça, c'est autorisé seulement en croisière quand il n'y a pas de météo ou de choses à faire. Ou voilà.
Ouais,
c'est pas sur chaque vol.
Et c'est pas les deux pilotes en même temps?
C'est mieux.
Ça arrive?
Ça arrive.
Bah arrête, me dis pas.
Moi,
ça
m'est arrivé, ça m'est arrivé.
C'est vrai?
Mais ça m'est arrivé. Non, mais alors, en fait, on se...
C'est-à-dire que toi, t'es en passager, gars, et les deux pilotes, ils sont pareils.
Mais d'ailleurs, sur les Boeing, il y a une sonnerie. J'ai fait un petit peu d'heures sur le Boeing 767, et en fait, si on touche à rien pendant une heure et demie, je pense, il y a une sonnette qui vient.
Bon, bref. Pas plus mal.
Mais c'est pour ça qu'il y a une règle aussi qui dit que les hôtesses doivent venir toutes les 30 minutes et de nuit, toutes les 15 minutes, ou nous appeler ou rentrer dans le cockpit.
Ouais. Parce que si ton casque, tu sais, t'as un casque, j'imagine, pour entendre le tour de contrôle, Enco. Mais si jamais tu dors et tu ronfles et que ton casque tombe...
C'est surtout quand il n'y a plus de radio. Ce que je disais, quand on traverse les océans, à un moment, on ne capte plus rien.
C'est-à-dire qu'on ne capte plus rien?
Bah, il n'y a plus de... Comme la Terre est plate. Comme la Terre est plate, à un moment, quand on descend, bah, les ondes ne passent plus. Donc, voilà. Ah oui, et comme il n'y a plus de centre au sol, puisqu'on est au-dessus de l'océan, en fait, ça vient par satellite. Donc, ah oui. Ça arrive sur les ordinateurs. Donc, on communique avec personne.
Mais oui, mais tu peux communiquer quand même sur les ordinateurs, si t'es une merde, non?
Ah oui, sur les ordinateurs. Ah, mais on parle à personne et on n'entend rien, en fait.
Waouh. Un pilote sur 8 est cliniquement dépressif. On a vu sur Internet.
Ah bon?
Ouais. Ça, c'est pas un vrai ou faux, c'est un vrai, tout court.
Alors, c'est possible. Dépressif. C'est une vie qui est pas facile. Hein, je veux dire,
justement, ouais.
C'est pas dormir. c'est pas dormir chez soi.
Décalage horaire.
Le décalage horaire, les vols de nuit, le fait d'être, la pression énorme, le fait d'être éloigné de la famille, moi j'ai des amis qui volaient tellement, ils disaient quand je rentre chez moi, le chien aboie quoi, enfin ou mes enfants m'appellent monsieur.
Ah waouh.
C'est oui, il y a des compagnies où ça vole.
Waouh.
La qualité de vie est, si on prend pas soin de soi, ça peut vite dégénérer. Ouais.
Tu te retrouves sous situation de stress à chaque décollage, comme certains métiers, parce que tu sais que ta vie est en jeu quand même.
Bah, s'il faut être conscient de, bah d'abord de.
Faut être concentré quoi.
Faut être concentré. Voilà. On a une machine qui coûtait excessivement cher. Quand il y a des passagers, bah c'est des passagers. S'il y a du cargo, c'est pas les passagers, mais l'avion peut se crasher sur. Sur une ville, enfin voilà quoi.
Rumeur qu'il y a sur Internet aussi, depuis quelques années, les pilotes d'avion ne feraient plus grand-chose, tout se ferait en automatique, décollage, atterrissage compris.
Ah non, décollage non. Non. Décollage, c'est la seule phase qui se fait pas en automatique. En revanche, oui, le 380, c'est, donc on décolle, on demande de mettre le pilote automatique le plus vite possible, parce que...
Ah bon ?
Bah, parce que lui, le pilote automatique, il suit sa trajectoire, donc il n'y a pas de...
D'à coup,
enfin, même pas pour le confort, hein, mais pour l'aérodynamisme, ça consomme moins de fuel. Et voilà, il fait sa croisière, il atterrit. Quand il y a du brouillard, l'avion atterrit tout seul, puisque nous, on voit rien. Et même sur le 380, on lui dit, voilà, on veut sortir de piste à telle sortie, on a un frein qui module et il freine tout seul. En revanche, après, il faut faire le taxi quand même à la main.
Les gens de podcast.
Ça t'est arrivé de chier un atterrissage? Tu sais, parfois, t'es en avion et t'as un mec qui tape un peu fort. Ça t'est arrivé de vraiment rater?
Alors, ça s'appelle pas rater. C'est ce que les passagers comprennent pas, c'est que parfois l'atterrissage est dur, mais c'est fait exprès. Parce qu'un bon atterrissage, normalement, l'avion doit sentir qu'il est au sol. Parce que quand il tape, enfin, il a tapé et tapé. Mais quand il tape, en fait, ça donne le signal pour les aérofreins de sortir, le truc, tout ça. Donc, si on fait ce qu'on appelle un kiss landing, parfois, bah, ça peut ne pas sortir et c'est pas bon. En revanche, quand il y a du vent ou que la piste est courte, là, on va bah, pas chercher.
Taper,
voilà. On veut.
C'est viril, quoi, tout de suite.
Voilà. Donc, les gens pensent que c'est un mauvais atterrissage, mais non.
Pas du tout. S'il touche les réacteurs sur les côtés, c'est un mauvais atterrissage quand même.
En fait, on dit que si l'avion est réutilisable, c'était un bon atterrissage.
Waouh, ok, très bien. Et donc, toi, t'en as déjà raté un. Qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, un atterrissage raté? Puisque tu disais, t'as déjà cassé un avion?
Non. Je pense pas.
Donc, t'as jamais raté l'atterrissage au point...
Raté, non.
Est-ce que t'as déjà merdé sur l'arrivée à tel point qu'il fallait remettre les gaz pour refaire un passage? Ça arrive à tous les pilotes, non?
Ça arrive, oui, de ma faute. Alors, ce qu'on appelle les approches non stabilisées. Personnellement, alors c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais non. J'ai déjà fait des remises de gaz, oui, mais parce que là, dernièrement, parce qu'il y a un bateau qui passait à Hambourg et en fait, il y a le fleuve, la piste, et il y avait un tanker... qui passait un peu comme à Chicago, là.
Ouais.
Et on passait pas, donc... Mais c'est dans la procédure.
Là, c'est très rapide de prise de décision, quoi.
Ah bah oui. En fait, on le voit avancer. Lui, il peut pas freiner. Nous, on arrive et puis, bah, voilà.
Alors, il y a une rumeur, mais je crois qu'elle est vraie, celle-là. Mais on n'a jamais trop su, c'est que les deux pilotes mangent deux repas différents pour pas tomber malade.
Oui.
Ça, c'est vrai?
Oui.
Au cas où il y en a un qui a eu une intoxication alimentaire,
voilà,
machin.
Voilà.
Ça, c'est vrai.
Ouais. Deux plateaux différents et on ne peut pas manger en même temps.
Ah bon?
Bah, au cas où il arrive quoi que ce soit, décompression, enfin, qu'il y en ait un qui soit toujours capable de reprendre les commandes.
Ah, c'est quand même bien pensé. Hein. Et c'est fait dans des cuisines différentes et tout ça? Si jamais il y a.
Non, je pense que c'est juste des menus différents.
Les pilotes prendraient des cours de self-défense pour agir si quelqu'un veut détourner l'avion depuis quelques années. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça?
Alors, les pilotes, je pense pas. Les hôtesses, oui. Je dis les pilotes, je pense pas, parce que normalement, on vole la porte fermée, blindée.
Ah oui, maintenant, c'est fermé.
Et on est interdit de sortir du cockpit, sauf pour raisons physiologiques. Alors, il y a toute une procédure pour sortir. S'il n'y a pas une porte, une deuxième porte, comme dans le 380 qu'on avait, les hôtesses doivent fermer un rideau, mettre un trolley devant... Vérifier qu'il n'y a personne qui vient et tout. Donc, les pilotes, en fait, ils ne sont jamais vraiment
trop
au contact.
En théorie, tu ne peux pas aller voir ta famille. Parfois, on voit des pilotes qui viennent faire des bisous à leur famille.
Non, officiellement, non. Et c'est même recommandé de ne pas, pas montrer qu'on a de la famille à bord, parce que si jamais il y a une prise d'otage, ils savent qu'ils peuvent faire pression avec ces personnes-là, par exemple.
Ah bah oui, pas con.
Ouais.
Waouh. On va reparler après du risque terroriste et du risque aussi de suicide du pilote, comme malheureusement il y en a eu un dans les Alpes il y a quelques années, on en parlera tout à l'heure. Si, est-ce que vous faites, vous regardez en chien de faïence, tu regardes toujours un peu ton collègue, mais on va en parler après. Les pilotes auraient un petit hublot qui pourrait ouvrir justement pour fumer s'ils ont envie. Je pense que c'est faux.
Ah, c'est faux.
Évidemment, ça dépressuriserait l'avion.
Alors, un petit hublot, je vois pas où... Oui, bien sûr, ça dépressurise.
Non, mais il y a toujours plein de trucs marqués sur Internet.
En revanche, on a des trucs quand même.
En fumée ?
Ah ben oui, on a des tricks.
C'est vrai ?
Que je... On peut enlever certaines valves. Bon, maintenant, on le fait plus parce que ça sent vraiment fort, mais à l'époque, quand on pouvait pas, pour pas en fumer, mais que... Enfin, bon, bref. On peut enlever une certaine valve qui va, en fait, aspirer le vent, l'air du coup, pour refroidir la soupe d'en dessous qui va partir vers l'extérieur, mais qui est pas assez forte pour dépressuriser l'avion. Oh, wow. Donc, si on fume entre les jambes...
L'humain est très inventif dans les conneries.
Ou alors, dans les toilettes, mais il faut tirer la chasse.
Non, dis pas. Ouais, parce
mais que ça, c'est connu, c'est connu. Les hôtesses le savent.
Ah, oui, ça fait...
Ça aspire, donc, mais alors... Voilà, c'est, je veux dire, le temps d'une cigarette, il faudrait tirer.
Mais là, c'est grave, non. Ceux
et les hôtesses, elles connaissent le truc.
Il y a des grosses amendes, hein, je crois.
Ah, ben, c'est des sacrées amendes, oui.
Puis c'est pas plus mal, en vrai.
Parce que bah, c'est l'odeur, et puis c'est surtout la nicotine qui se met derrière les parois de l'avion, qui est vraiment pas bonne, quoi.
Ah, c'est vrai ?
Ouais,
qui est dangereuse, c'est
vrai ? Ouais, ouais. Ils ont avant, les avions fumeurs, ils ont retiré certaines parois. Il y avait une épaisseur de nicotine derrière, mais c'est dégueu, quoi.
Ah, oui.
Enfin, c'est surtout pour le feu, quoi.
Ah,
surtout pour le feu.
Si jamais il y a une situation grave dans les rumeurs sur les pilotes d'avion, si jamais il y a une situation grave, le pilote ne le dit pas aux passagers.
On choisit nos mots. On choisit nos mots. Bon, après une dépressurisation, il voit le truc tomber, il n'y a pas photo. Mais par exemple, si on a un problème sur le moteur, on va plutôt dire un problème technique.
Bon, tu sens la merde quand même. Cher passager, tout va bien. Enfin, tout va pas si bien que ça.
Oui, madame. Le bruit que vous n'entendez pas à gauche.
Le réacteur est en feu, vous ne le voyez pas, il fait nuit.
Non, on choisit nos mots. On choisit nos mots.
Ouais. Et ça t'est déjà arrivé ? Situation un peu technique, grave.
Technique, oui, plus ou moins, mais pas extraordinaire. Pas de moteur en feu, pas de... J'ai déjà perdu des moteurs en vol, mais pas...
C'est-à-dire un moteur en vol ? Le moteur n'a pas brûlé, il est tombé. Voilà. Le réacteur a disparu.
Mais où est-il ?
Ça t'est déjà arrivé de perdre un réacteur ?
Oui, en fait, on était sur un 340, donc 4 moteurs, c'est bien. Et en fait, on était en croisée, on partait en Inde, et il y avait un Emirates en dessous, on montait. Et dans la montée, un moteur s'est éteint, en fait.
Sauf que... tu perds un moteur, mais il n'est pas tombé.
Oui, perdre un moteur, c'est, il s'est éteint, en fait.
Voilà. Okay, okay.
Bon, il nous en reste 3, sauf qu'on n'a plus la même puissance pour monter, mais que l'Emirates en dessous avait demandé de monter de niveau aussi en même temps, sauf que lui montait beaucoup plus vite, parce que lui, il avait encore ses 4 moteurs, et qu'il se rapprochait, et qu'on essaie... Enfin, bon, bref, donc on a dû sortir de l'air. Oui, bon.
Ouais, vous avez réussi à changer de cap, quoi. Mais bon, quand t'as 4 moteurs, en vrai, tu peux fonctionner avec 3, tu peux arriver à
destination.
Même avec
2, hein.
C'est vrai ?
Ah ouais, ouais. Dans les entraînements, les simulateurs, ils nous coupent 2 moteurs du même côté.
Et les réacteurs, les avions, pardon, qui ont que 2 réacteurs, ils peuvent fonctionner qu'avec 1, ils peuvent se reposer qu'avec 1.
Ah ouais, ouais, bien sûr.
Ouais. Ok, au cas où, quand même.
Ouais, 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 de toute façon, on est entraîné. Tout est certifié pour ça, hein. Heureusement.
Et avec 0
Avec 0, on plane.
Non, mais est-ce que ça plane ?
Ah oui, c'est... Ah ouais, ça plane bien, même.
Tu peux arriver à te poser ?
Mais il y a Air Transat qui l'a fait, c'est un miracle. Ils ont perdu les 2 moteurs en vol, ils ont réussi à les poser aux Açores, en planant. Mais alors, le truc, c'est de bien faire le calcul. Ça plane
bien
pas
descendre,
mal.
Bien descendre, parce que tu peux pas remettre les gaz, là.
Ah bah non, il n'y a plus rien. Alors, on a quand même une pseudo-hélice qui tombe sous l'aile pour récupérer l'hydraulique pour les contrôles de les commandes de vol. Parce qu'il y a ça aussi. S'il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de génération et c'est pas à l'air libre.
Ah, wow.
Donc, on a quand même ça. Descendre le train, on peut le descendre en gravité. Donc, voilà.
Avec
on a
poids.
Quand même les trucs de base, mais ça plane.
Ça t'est jamais arrivé, puis on va continuer les 2 dernières rumeurs, ça t'est jamais arrivé de te retrouver avec un train d'atterrissage qui ne sort pas et où il faut se poser sur de la mousse au sol, tu sais, je crois qu'il y a de la mousse qui mène pour pas que l'avion brûle.
C'est de plus en plus rare, cette mousse, mais ça existe, ouais. Non, moi, ça
tu l'as jamais eu ?
Non.
C'est un stress à chaque fois que tu déplies les trains d'atterrissage, que tout s'allume en vert ?
On a 2 systèmes, donc il y a toujours un backup, et on a aussi la gravité, donc mécanique.
T'as pas une manivelle où il y a un mec qui va en dessous ?
Alors là, dans l'avion où je suis maintenant, oui, c'est avec une manivelle qui est ici, là, ouais. Ouais.
Non,
faut tourner 22 tours, non ?
Pour de vrai ?
Ah ben oui. C'était le Moyen-Âge.
C'est à la manivelle ?
Là, c'est à la manivelle. Là, maintenant, les nouveaux, c'est juste un petit truc à descendre.
Alors, il y a en dessous de 3... Alors ça, c'est intéressant. En dessous de 3000 mètres d'altitude, les pilotes n'ont pas le droit de discuter entre eux.
Oui. En dessous de 10 000 pieds, en fait, comme on considère en mode d'approche ou en mode décollage...
Il n'y a pas de discussion, quoi.
Il n'y a pas de discussion parce que il faut ou se préparer pour l'approche, c'est quand même plus important. Le décollage, après, quand on est parti, mais peut se préparer pour l'approche. Donc, il y a du trafic, il y a de...
Il faut être concentré à 100%.
Ah, bah, oui.
Il n'y a pas de discussion de vacances, etc.
Non,
comme tu peux le faire avant le décollage, j'imagine, amicalement.
Non, et le pilote... donc, il y a toujours un pilote qui vole et un pilote qui moniteur. Celui qui vole, celui qui va faire l'atterrissage, l'autre fait la radio, il n'a plus le droit de toucher à rien. Donc, il demande à l'autre de toucher. Comme ça, lui, il est concentré sur son vol.
Ok, ok. Ouais, wow. D'accord. Les pilotes d'avion regardent des films sur les vols les plus longs. Mais j'imagine que oui, si tu dis que tu peux dormir, tu peux te mater un film.
Officiellement, non.
Voilà, merci pour cette réponse, qui est très claire, finalement. qui peut ne pas... Voilà. J'en ai regardé, chez Air France, il y a 91% des pilotes qui sont des hommes.
Ouais.
C'est un métier qui est très masculin. Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Personnellement, je l'explique parce que tu n'es pas souvent à la maison. Pour élever les enfants, peut-être. Maintenant, les mœurs sont changées, mais...
Toi, on t'a fait comprendre, parfois, que c'était étonnant. Tu as une femme pilote. T'as déjà eu des problèmes à cause de ça ?
Des problèmes... J'ai eu des remarques, oui. Des passagers, en fait, quand on va déposer nos bagages, on les dépose au comptoir comme les passagers, avant de monter dans l'avion. Ah oui, j'ai déjà eu des remarques. J'ai déjà eu des hommes, mais blancs comme des linges, quoi, qui disaient à sa femme... Est-ce que c'est bien elle ?
C'est vrai ?
Et je lui dis, oui, monsieur. J'ai toutes mes qualifications.
Devant toi, il dit ça ?
Ah ouais, ouais. Ah ouais. J'ai déjà eu une passagère aussi, c'était une Irlandaise qui était, mais folle furieuse, on allait à Dublin parce qu'il y avait une hôtesse anglaise, parce qu'ils ne s'entendent pas. Donc elle demande à voir le commandant de bord. Et donc eux, ils rigolent, viens voir. Et, oh, c'est une femme, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie ?
C'est vrai ? Ouais. Wow. Ouais. Et t'as déjà eu des passagers, mais qui ne veulent pas monter carrément, ou t'as déjà
Alors
eu des...
est-ce qu'ils ont refusé, je sais pas, moi ils sont libres, ça m'est jamais revenu ça, non.
Non.
Bon, ils ont payé leur billet, ils viennent. Hein.
Est-ce que le club des 10 000 existe vraiment ?
Mm-mm.
Le club des 10 000, c'est ceux qui ont déjà fait l'amour en l'air,
ouais.
À plus de 10 000 mètres d'altitude, c'est une sorte de rumeur qu'il y a, on aurait pu la mettre dans les rumeurs, mais j'avais noté...
Si, apparemment, il y a même un site internet pour ça.
C'est-à-dire quoi ?
C'est les gens s'en vantent et
ah bon ?
Ils font des paris, des trucs. Bon, après, si, moi, j'irai pas dans les toilettes de l'avion. Ils sont plutôt courageux.
Oui, toi, t'as un cockpit pour toi toute seule.
Mais
c'est quand même magnifique. Nous, on a le droit d'avoir un siège où on n'a même pas une fesse ennemie dessus.
Et puis moi, je suis payée pour voler.
Et toi, tu es payée pour voler en plus. Ça, c'est un vrai avantage quand même. Est-ce que tu as des vols gratuits ? Ça, c'est aussi une rumeur, mais je n'ai pas mis...
Gratuit, non. Bah, en revanche, on a de super avantages, ouais.
Enfin,
ça dépend des compagnies, mais...
C'est quoi un super avantage ?
Alors, quand on a accès aux billets confirmés pour 50% du prix du plus bas de l'année, donc là, on est sûr de monter, donc on ne paye que 50%, en classe économique, affaires, et première quand on est commandant de bord. Et on a aussi accès pour les copilotes, les hôtesses, c'est économie, business et première pour les captains à 10% du prix, mais non confirmé. Donc, c'est s'il y a de la place.
Ah oui, d'accord. Ouais, bah, t'as 10% du prix, c'est quand même...
Si on choisit bien sa période...
Moins cher, c'est gratuit. Moins cher, c'est gratuit.
Moi, je revenais en première, là, pour 350 € aller-retour, quoi.
T'as déjà pris la première ?
Ah ben oui, je prenais que ça.
Excuse-moi.
Quand j'avais ces avantages-là. Mais maintenant que je paye plein pot, je suis en écho, comme tout le monde.
C'est vrai, la première fois que j'entends cette phrase, mais je prends que ça, la première.
Mais wow. Mes enfants, à l'époque, on avait ces avantages. Maintenant qu'on les a plus, qu'on voyage en écho, je veux dire, tout le monde...
Ah ouais,
ah ouais.
Putain, quand t'as connu la première...
Ah, ça fait tout drôle.
Je sais même pas ce que... C'est incroyable.
C'est fantastique. C'est service à la carte, les sièges sont larges comme ça, la télé comme ça. C'est même plus le siège qui s'allonge, il y a une banquette qui fait lit d'une personne. On peut enlever la paroi, ça fait un lit de deux personnes avec le passager derrière. D'où le...
Le club des 10 000.
Voilà. Ah
ouais. Beaucoup plus sympa que les toilettes de la classe éco.
Sponsorisé par...
Et puis, tu as du champagne, tu as un vrai restaurant, non ?
Ah ouais, c'est enfin, champagne, c'est Dom Pérignon, c'est pas le champagne de business non plus, c'est pas le même champagne.
En même temps, le prix du billet, c'est hallucinant.
Ouais, de moins en moins. De toute façon, ils payent jamais, hein. C'est souvent les...
C'est quoi l'ambiance quand t'es avec le personnel dans un avion? Est-ce que c'est plutôt chaleureux? On imagine toujours ça un peu en mode Club Med, bande de potes, quand vous arrivez quelque part, vous avez 24 heures dans un hôtel. Est-ce que c'est vraiment la joie? Est-ce que personne ne se parle? Comment ça se passe?
Alors, ça dépend des destinations, ça dépend de la compagnie, déjà. Si tout le monde est de la même nationalité, style Air France et tout ça, il y a plus de d'acquaintance, quoi. Mais si on est, moi, on était 25 membres d'équipage, j'avais 25 nationalités différentes.
Ouais, donc ça dépend.
Voilà,
des
donc
fois.
C'est dur de s'entendre, enfin, ou d'avoir les mêmes loisirs, tout ça. Et puis après, bah, ça dépend la fatigue, les destinations. C'est sûr que si on va passer une semaine dans les Caraïbes, on va être vachement plus amis que d'aller faire un Bombay aller-retour, quoi.
Est-ce que c'est toi la chef quand t'es le commandant?
Quand t'es commandant, ouais.
Commandant, donc toi, tu l'es. Commandant de bord, donc c'est le plus haut grade dans l'avion. Est-ce que t'as déjà eu des engueulades de personnel, du crépage de chignon entre stewards,
entre hôtesses.
Ça c'est à toi de dire stop.
Parce que en fait on est déjà le responsable. Après il y a des rapports qui sont écrits. Enfin ça dépend l'échelle de la dispute, mais oui, il y en a une qui vient se plaindre. Après, on a la version de l'autre. Après, il faut les mettre toutes les deux parce que le but, c'est de travailler en équipage.
Bah oui.
Donc, il faut pas laisser pourrir une situation. Donc, on les prend les deux. Il faut avoir un témoin en plus pour pas qu'il y ait de elle a été contre moi.
Ah, wow.
Ah, mais c'est parfois c'est une cour
d'école. C'est un mini tribunal.
Ah là là là. Ouais.
Ça arrive. J'imagine, comme dans tout travail, avec la pression,
la fatigue,
ça m'est déjà venu aux mains, dans un équipage?
Dans un équipage aux mains, non.
Jamais?
Non. Pas chez moi.
Les gens de podcast.
Non. Et t'as déjà eu une bagarre en vol avec des passagers? Parfois, on voit des vidéos sur Internet de bagarres passagers.
Alors moi, j'ai pas eu bagarre générale. En revanche, j'ai eu un gamin qui a tapé sa mère. Mais sérieusement, quoi, la mère était en sang.
Mais un gamin de quel âge?
Il devait avoir 17, 18 ans.
Oui,
non, à
mais
peine,
c'est un gamin, c'est un jeune adulte.
Oui, en plus. Il avait tapé sur un Sydney. Donc, ils ont essayé de le calmer. Une fois, deux fois.
Il a tapé sa mère.
Ouais, elle était en sang, là, et tout. Donc, à la fin, en fait, il s'est calmé. Donc, on a quand même appelé la police pour signaler parce qu'il y avait encore un vol après. Enfin, ça se fait
et
pas.
La mère,
quoi.
Elle est restée.
J'imagine que c'était pas la première fois, donc elle disait rien. C'est triste.
Qu'est-ce que tu fais s'il y a un mec qui est très violent? On se rappelle de Delarue à l'époque, qui avait pété un plomb en l'air et qui a tapé des hôtesses, je crois. Est-ce que qu'est-ce que tu fais comme procédure s'il y a un mec qui devient fou dans l'avion qui tape tout le monde?
En fait, il y a une procédure. D'abord, on a un oral warning, un avertissement oral.
C'est toi qui dois le faire?
Non, c'est l'hôtesse qui le fait. Non. Tout reste pour pas déranger les autres, en fait. Donc, on essaie de rester le plus discret possible. Elle lui fait d'abord
un avertissement.
S'il continue, on a des papiers spéciaux, elle va donner le papier, il le lit. Normalement, il doit le signer. S'il veut pas signer, ça escalade. En fait, je crois qu'il y a trois
niveaux.
Pour trois avertissements, on a cinq blâmes. Pour cinq blâmes, c'était collé. Non, c'est trop comme référence. et puis après, à la fin, il y a les
menottes,
les serflex là.
Vous pouvez les attacher.
Ouais.
T'as l'autorisation.
Si le mec est trop violent, bien sûr.
Mais par exemple, les hôtesses, si elles sont pas assez fortes physiquement et qu'il y a pas de steward,
alors elles ont des techniques.
C'est les passagers qui aident aussi, non, j'imagine.
Ou alors elle demande à un passager. Ouais.
Et repère les passagers un peu costauds au début?
Oui.
Toujours?
Pas toujours, je sais pas, mais de toute façon, elles ont leur tête. Hein.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un fou rire qui t'a posé un problème? Je sais pas. Est-ce que t'as déjà eu des fou rires en vol?
En vol, oui, bien sûr, heureusement. On rigole bien. Hein.
C'est vrai?
Après, ça dépend de l'ambiance que tu mets. Enfin, moi, j'aime bien faire mon travail, mais j'aime bien rigoler aussi, quoi. On a déjà eu des fou rires et des accents au Vietnam, on comprenait rien de ce qu'il disait.
Ouais.
Et on faisait exprès de le faire parler, mais on n'arrivait plus à s'arrêter.
Est-ce que t'as déjà eu, je crois que oui, t'avais dit dans le mail d'ailleurs, une anecdote avec des mariés, des jeunes mariés?
Ça c'était génial. On partait, en fait, on faisait des vols d'une semaine au Sri Lanka, mais on s'arrêtait aux Maldives avant. Et c'était d'une compagnie charter, donc on décollait le matin. Et je vais pas dire souvent, mais quelques fois, on a eu, ils arrivaient directement de la soirée, donc la femme encore en robe de mariée, le maquillage dégoulinant, ça sentait l'alcool, le truc. Ils partaient pour 11 heures de vol, on les déposait aux Maldives, On continuait, on restait une semaine au Sri Lanka, on repassait par les Maldives et on rentrait. Donc on avait en général les mêmes passagers, quoi. Mais ils voulaient plus s'asseoir les uns à côté des autres.
Ah, ils s'étaient engueulés pendant
les Maldives, il se passe rien. Donc à mon avis, ils sont engueulés pendant la semaine, quoi. Mais ça arrivait
souvent. Ils ont demandé de changer de siège.
Ah ouais, ouais, ils voulaient plus être assis l'un côté de l'autre.
Ah waouh, mariage ouais. Consommé rapidement.
Oui.
Est-ce que tu as déjà eu des gens extrêmement sales? Genre, c'est quoi les trucs les plus crades que tu as vus en tant que...
On a eu plusieurs fois l'hôtesse qui vient nous rapporter qu'elle a trouvé des étrons, pour rester poli, dans le lavabo.
Dans le lavabo?
Dans le lavabo.
Alors qu'il y a les toilettes à côté.
Eh oui. Et que le lavabo est quand même à une certaine hauteur. Donc, alors, c'est ça, c'est... D'où les fous rires.
C'est même encore plus compliqué d'aller...
Mais je sais pas. Ou alors il le prend, il le pose, mais je vois... Enfin,
mais c'est je sais quel pas. But, on sait pas?
Je sais pas.
Waouh.
Ah non, mais il y a des choses et...
Il y a quand même des gens avec qui j'aimerais avoir des discussions un jour. Tu vois, ce genre de personnes et tout. Pourquoi, tu vois? Essayer de comprendre l'humain.
Ah oui, non, mais les rivières de pipi, ça, c'est aussi, c'est une anecdote super, une anecdote super connue. En fait, quand on fait les pèlerinages à la Mecque, on va chercher les pèlerins, et après, ça dépend des pays, Indonésie, Inde, voilà. Souvent, ceux qui viennent d'Inde, on les amène là-bas, on les laisse 3 semaines, donc déjà, ils se lavent pas, ils prennent pas d'hôtel pour les moins riches, et on les ramène chez eux 3 semaines après, quoi. Et donc on avait fini les pèlerinages et je cherchais, donc on revenait avec tous les équipages à bord. Enfin moi, je cherchais une place. L'avion était vide, sans passagers, et je cherchais une place. Je n'ai pas trouvé une seule rangée où il n'y avait pas du pipi, du caca, du vomi.
Sur le siège.
Et les rivières de pipi, je connaissais pas. Mais en fait, quand ils vont aux toilettes, et ils connaissent pas les toilettes là-bas. Donc, ils se mettent dessus, ils font les ablutions, les trucs, ils tirent pas la chasse. Donc, en fait, ça déborde. Et comme l'avion vole en inclinaison...
Parfois des petits degrés, des machins...
Bah, hein. On vole toujours avec plus ou moins un degré et demi. Et en fait, ça coule comme ça sur les...
Ça sort des toilettes?
Ah oui, des rivières de pipi.
Et c'est quoi le truc le plus horrible que tu aies trouvé dans l'avion?
Oui, malheureusement, des fœtus, des femmes qui doivent se faire avorter dans les toilettes, j'imagine.
Ils laissent dans la poubelle.
Dans les poubelles, ouais. Ouais.
Mais t'as déjà vu ça?
Moi, j'ai pas vu, non. Mais c'était arrivé le vol avant que je prenne l'avion. Donc oui, ça arrive. Bon. Ouais.
Il y a aussi des transports de prisonniers. Moi, ça m'est arrivé une fois de prendre l'avion avec un. Il y avait des gendarmes, etc., dans les rangées derrière moi. Ça t'est déjà arrivé?
Alors moi, j'ai pas eu de prisonnier. En revanche, on a des inades, donc qui ont été refusées à l'entrée du pays.
C'est quoi des inades?
Inadmissible. qui ont pas été admis, en fait.
Ça me rassure, j'ai le même niveau d'anglais.
Maintenant, on parle plus à la radio, on fait tout par ordinateur, heureusement.
Ah bon?
Non, je rigole. Donc, ils n'ont pas été admis dans les pays, donc on les reprend. Et alors, s'ils veulent de leur propre gré, on ne prend pas le passeport, sinon ils sont accompagnés, escortés.
C'est quand tu n'es pas accepté à la douane, quoi. Voilà. Tu arrives dans le pays, on te dit, t'as pas de visa, tu repars.
C'est pour ça que maintenant, ils vérifient avec des loupes dans certains pays. On est déjà venu chercher, en revanche, j'ai pas eu le prisonnier, mais la police est déjà venue rechercher un passager à bord.
Ah oui?
Ouais, avant le décollage, ouais. Ouais. Au Nigeria, ils m'ont pas dit pourquoi. Ils ont demandé l'autorisation de rentrer, mais pas...
Un mec qui voulait s'enfuir, quoi.
J'imagine.
T'as déjà eu un blessé? On parlait dans l'introduction, on disait que t'avais déjà eu des hôtesses blessées dans des trous d'air, des trucs, mais t'as déjà eu aussi des... On va en reparler, mais t'as déjà eu des passagers qui se blessent?
Alors, j'en ai eu un qui s'est blessé, il s'est déboîté l'épaule.
Comment se déboîte l'épaule dans un avion?
Alors, c'est toute une histoire. Après 3 heures de vol, il a décidé de faire des étirements.
Jean-Louis Yoga, il met son tapis dans les chiottes. Il s'est fait des...
Et Jean-Pierre, j'ai pas appris ma leçon, il avait déjà déboîté son épaule 2 semaines avant, en fait.
Ah, wow.
Ça, j'ai su après. Bref.
Donc, dans un long vol?
On partait sur Sydney, donc 14h30 de vol. Il se déboîte l'épaule, il hurle à la mort. Et en fait,
ça fait très très mal, une épaule déboîtée.
Apparemment. Et plus on avance, et en fait, plus on rentre sur l'océan, et on a 11 heures avant d'arriver à Perth et d'avoir la prochaine côte, quoi. Donc, on demande des médecins, alors, il y avait, je crois que c'était 2 infirmières, 2 médecins, enfin, personne n'a voulu le toucher.
C'est vrai qu'il
fallait faire des piqûres pour le soulager. Personne n'a voulu le toucher. Les assurances, les trucs, nanana. Maintenant, les médecins se
Ah oui?
Ah non, ils se manifestent, mais il n'y a personne qui veut toucher personne. Donc, on appelle...
Y a-t-il des médecins dans la salle ? Oui, je suis médecin. Vous pouvez nous aider ? Non, non, non. Je suis juste médecin. Je
ne connais pas.
Mais du coup...
Et donc, en fait, on est en liaison avec un hôpital. Enfin, c'est tout un truc. Et eux, ils nous disent, non, maintenant, il faut faire diversion. Donc, on décide de faire diversion sur le Sri Lanka. On lâche quand même 70 tonnes de fuel dans l'océan parce qu'on était trop lourd pour atterrir.
Attends, c'est pas vrai.
Ah bah oui. Ouais. Oh. Ah bah oui, on avait le fuel pour aller jusqu'à Sydney. Il y a 14 heures de vol. Et là, on était parti depuis 3 heures.
Attends, et pourquoi tu peux pas te reposer avec du...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
L'avion, non, sinon l'avion est trop lourd. Ça fait trop de poids sur le train d'atterrissage. Ah. Donc on lâche 70 tonnes de fuel, on tourne, on lâche.
J'appelle Hugo Clément, faites une pause. Putain, mais ça, c'est des vrais sujets, ça. D'écologie. Non, mais c'est incroyable.
Ah ben non, mais il faut pas. Moi, c'est ce que je disais hier à Louis, là, il faut pas. Je suis la hantise des écologistes.
70 tonnes.
Ah ben on en brûle 120 pour aller à Sydney. Et on vole en grappe, hein, comme ça, on est je sais pas combien.
Pour un génie qui sait déboîter l'épaule.
Ah oui, mais alors, c'est pas fini, parce qu'après, il faut payer les taxes d'atterrissage, il faut refueler. Ça, c'est un truc qui a dû coûter, je sais pas, 300 000 euros.
Et le mec, vous lui faites payer son
Mais bien sûr que non.
Ah bon ?
Mais non, c'est pour ça qu'on on réfléchit à deux fois avant de faire une diversion. C'est pour ça que les gens... Alors, les gens qui se battent dans un avion, mais là, c'est cause médicale. Donc, donc on atterrit. Le type, il me dit... Parce que la procédure en vol, c'est que si on fait diversion pour cause médicale, on laisse les bagages à bord... On débarque le malade et on repart, on s'en va, puisque de toute façon, il n'était pas censé tomber malade, donc on peut garder les bagages, sécurité, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, il dit, est-ce qu'on peut garder les bagages et quelqu'un viendra les chercher à Sydney, mais je suis avec ma fille et ma fille va descendre avec moi. Et moi, je lui dis, oui, mais pourquoi il s'est déboîté l'épaule ? C'est pas une crise cardiaque. Vu qu'en plus, il a été dire qu'il s'était déjà déboîté l'épaule, et il demande expressément à ce qu'on laisse les bagages à bord. Donc moi, je dis non, on débarque les bagages, et puis il dit non, bah alors à ce moment-là, est-ce que si le médecin me remet l'épaule au sol, est-ce que je peux remonter dans l'avion ? Et l'hôtesse vient me demander ça, et je me retourne, je lui dis mais bien sûr. Je lui dis, et puis et quand il aura envie, s'il veut un Burger King, on s'arrête à Kuala Lumpur, hein, tu vois, enfin bon, ouais. Et l'hôtesse, elle me dit, OK, je vais lui dire, j'ai non, mais je rigole. Mais c'est jamais, quoi. Jamais. Merci, au revoir.
Et t'as eu un doute de sécurité quand
ah, ben, bien sûr.
Le mec, il s'est déboîté exprès pour laisser. Ah, on sait jamais.
Déjà, s'est tiré après 3 heures de vol, sachant qu'il s'est déjà déboîté l'épaule. Enfin.
Dès qu'il y a un peu de doute, tu
Ah, ben moi, je. Voilà.
Waouh. Ouais. Wow. Et t'as déjà eu d'ailleurs un. Là, tu parles de crise cardiaque, malheureusement, et tout, mais ça t'est déjà arrivé d'avoir un gars qui meurt en avion ?
Non, moi, j'ai pas eu de mort, mais ça arrive souvent, ouais.
Des crises cardiaques ? Et toi, t'as déjà eu des gros problèmes physiques à part une épaule déboîtée ? T'as déjà eu des gars, vraiment, il faut se poser pour des bonnes raisons ?
Non. Non, non, ça, j'ai pas eu, non. Bah, y a l'histoire qui court quand même, hein, la femme qui se fait faire le massage cardiaque. En fait, si elles ont un dentier, il faut enlever le dentier pour faire le bouche à bouche.
Je sais pas pourquoi tu me parles de ça.
Non, c'est parce que ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est une anecdote qui est connue dans l'aviation. Et elle fait le massage cardiaque, ils lui enlèvent, ils lui font le bouche à bouche, ils perdent le truc, la femme est sauvée, elle porte plainte contre la compagnie parce qu'ils ont pas retrouvé le dentier, quoi.
Ah bon?
Ça donne envie de les réanimer.
Ouais. Il y a des fois, tu te demandes si t'as bien fait. Ouais, c'est horrible. Et pourquoi on enlève le dentier ?
Parce qu'il faut faire le bouche à bouche pour pas. Ah, parce qu'ils doivent mettre une espèce de faux truc pour pas se toucher les lèvres chacun.
Ah, ouais. Ah, maintenant il y a ça.
Ouais.
Ah, il y a une espèce.
Ah, ouais,
de...
toutes les hôtesses ont leur petit kit.
Comme un rouleau de PQ, un
truc. Bah, comme un truc en plastique, là, je sais pas quoi.
Ah, c'est ça pour pas que ça touche.
Ouais.
Pourquoi les lumières s'éteignent ? On nous dit toujours, il faut éteindre les lumières au décollage et à l'atterrissage.
Parce que si on fait un arrêt décollage et qu'il faut évacuer, faut pas être ébloui par les lumières d'intérieur et voir ce qui se passe à l'extérieur toujours. Voir s'il y a le feu d'un côté, de l'autre. C'est juste pour la vision extérieure.
Tu Tu parlais tout à l'heure de dégazer, enfin, quand tu sors tout le fioul, c'est-à-dire que t'as un bouton, ça se vide en dessous?
Oui, derrière les ailes, oui.
Ça risque pas de prendre feu quand tu fais un truc comme
non,
ça?
Non, non, c'est fait exprès. Alors après, il faut faire attention parce que souvent, ils nous font faire du holding, donc des tours dans le ciel pour pas voler, s'éloigner trop, pas revenir dans son fioul, quoi.
Ouais, je savais pas que l'avion, il est trop lourd, il peut décoller, mais il peut pas se poser.
Pas au même point, non.
Putain, c'est fou.
Ouais. Après, il peut, hein, il peut. Mais si on revient au poids de décollage à l'atterrissage, après, il faut faire un boroscope pour voir s'il n'y a pas eu de fissure dans l'avion. Parce que ce n'est pas fait pour.
Toi, tu n'as jamais eu d'avion trop lourd. Est-ce que c'est possible pour décoller? On ne t'a jamais dit, là, il y a trop de bagages, ça ne décollera pas?
Non, moi, j'ai déjà eu des avions cargo qui étaient surchargés. Bon, on a décollé, hein, mais... parce qu'il y avait un lac en bout de piste, quoi. Donc on l'a vraiment senti, et c'était régulier. Ouais. Et en fait, ils chargeaient à vue.
Donc... Ah, il n'y a pas de poids. Non, c'est à
peu près. On avait des caisses de 6 kilos de poissons, sauf que y avait bien 6 kilos de filets de poissons dedans, mais la caisse en polystyrène et la glace qui était dedans n'étaient pas comptées.
Ah, waouh.
Sur 23 tonnes de filets, ça fait beaucoup en plus.
Et, ça,
et les types chargés, en fait, en se disant, bon, voilà, ça doit faire plus ou moins autant de caisses, c'est bon, quoi. Et en fait, on décolle, et il y avait le lac, là, et puis on sent vraiment l'avion qui fait...
Ah, waouh.
Ouais. Ça, c'est pas top. Ça n'arrive pas dans les airlines, hein, tout est calculé.
Tout est sous contrôle. Oui.
Non, ça n'arrive pas dans les airlines.
Et parfois, il y a des scènes d'urgence dans les avions. Là, on a vu... un avion, ça fait le tour du monde, qui a perdu une portière.
Une porte, oui.
Une porte qui s'est envolée.
Ouais.
Toi, t'as jamais eu de grosses galères comme ça? Est-ce que c'était déjà arrivé? Un truc technique improbable?
Moi, j'ai eu une porte arrachée, mais au sol. Hein, donc, mais c'était pareil, c'était un avion cargo. Donc, en fait, l'escalier, au lieu de reculer, il ne pouvait pas le contrôler. Donc, il est monté. Comme la porte était ouverte sur l'extérieur, paf, ça l'a fait exploser. On a remis la porte à l'intérieur. On a mis des cordes, on a vidé les valises, on a bien mis autour. Personne va me croire, mais je vous promets que c'est vrai. Et en fait, on s'est dit, on va essayer de décoller comme ça. Et puis avec la pressurisation, ça pousse, ça gonfle. La porte tient. On va rentrer. Et on est rentré.
Comment vous avez vécu la période Covid?
Mal, très, 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 très mal. Moi, j'ai perdu mon travail, déjà.
À Abu Dhabi?
Ouais.
T'es parti habiter 15 ans?
15 ans, j'ai vécu là-bas et donc j'étais sur 380, impossible de remplir un 380. Donc, avion mis au sol, payé à 50% pendant quelques mois et puis après, licencié. Donc, j'ai quitté 15 ans en un mois et demi. Ouais.
T'étais sur la 380?
Oui.
Ah oui, donc tu pilotais le plus gros avion.
Oui. Alors, j'ai eu la chance de commencer sur le premier quadrimoteur au monde, commercial, le DC-8. Et d'avoir fini d'avoir piloté le dernier, parce qu'il n'y aura plus jamais de quadrimoteur.
Ah bon?
Non, c'est pas rentable.
Vous mettez les photos, là, que vous puissiez voir un peu tous les modèles dont tu parles. C'est pas rentable, c'est-à-dire que ça consomme plus, 4 moteurs?
C'est 4 moteurs de 2 fois plus de maintenance, 2 fois plus de consommation.
C'est agréable à conduire un A380?
Ah, c'est génial.
C'est plus dur de conduire un petit avion Cessna ou un A380?
C'est pas du tout pareil. Après, les principes de vol sont les mêmes. Hein. On tire, ça monte. On pousse, ça descend. Mais c'est... 380, c'est contrôle hydraulique, c'est... Enfin...
C'est luxe.
Ouais, et puis c'est... Mais il est... ce que je veux dire, c'est qu'il est génial parce qu'il est super maniable.
Et tu t'amuses parfois à reprendre un peu en manuel pour t'amuser un peu à tirer?
On essaye de prendre un maximum en approche, en manuel, parce que ça reste notre métier quand même.
Oui, parce que c'est du plaisir aussi.
Ah, mais oui. Oui, on s'amuse, enfin, c'est agréable de... Mais voilà.
Pour parler des tempêtes, je sais que parfois il faut éviter les tempêtes, on voit qu'il y a des gros nuages sur les radars, et je crois qu'il faut contourner, c'est ça? Il faut éviter de passer dedans?
Au maximum, oui, parce que ça peut casser un avion, oui. Air France. Hein.
Ça peut casser un avion?
Air France. Le vol Rio-Paris. Hein.
C'est une tempête?
Ah oui, ils sont passés... Ils sont passés il y a des updrafts, ça monte, ça descend, ça, voilà. Donc on a des radars, on essaye d'éviter. Moi j'ai déjà pris des je crois que c'était plus de 500 km pour éviter un mur, en fait, un mur au-dessus du Bangladesh là pendant la mousson.
Et puis c'est l'essence pour ça?
De toute façon on prend l'essence à ce moment-là. On consomme l'essence qu'on a à bord à ce moment-là. Et puis si on en a pas assez Pour la destination, on fait diversion. On s'arrête quelque part, on reprend de l'essence. Et... Mais jamais on va rentrer dans un truc comme ça, non.
Tu peux t'arrêter où tu veux, c'était une galère.
En fait, on peut... Si on déclare Mayday, on s'arrête où on veut.
Oui, voilà, c'est voilà. Ça, en fait.
Ouais, ouais.
Si t'as plus d'essence, pas de question, quoi. Si tu passes au-dessus de pays compliqués, en guerre, dangereux, pas au-dessus de l'Afghanistan, par exemple, et que t'as une galère... Est-ce qu'il y a des procédures T'essaies de planer jusqu'au pays d'à côté.
Là, par exemple, quand on remontait du Golfe pour aller en Europe, on ne pouvait pas survoler l'Irak en dessous de 25 000 pieds. Parce qu'ils ont des
roquettes ou des trucs.
Voilà, qui peuvent atteindre autant...
si haut.
Sol-air, voilà. On n'est pas sûr, on a des consignes des routes, des escape routes pour ne pas aller atterrir chez eux. Maintenant, si on est en feu, on a 12 minutes pour se poser. C'est un feu incontrôlable, on a 12 minutes pour être au sol. Donc, qu'ils soient en guerre ou pas en guerre, on va tenter le coup, quoi.
Ah ouais,
mais façon... c'est vraiment, voilà, c'est le cas d'extrême.
Ah, t'as 12 minutes pour te poser s'il y a un feu. Ouais, bon. Ouais. C'est maximum, quoi. Mm. C'est déjà long, hein.
Oui.
Non, c'est court pour un pilote,
c'est court
mais c'est long.
Ouais. Pour, en 12 minutes, ça peut bien cramer, quoi.
T'as eu une grosse tempête à côté du Mont Blanc.
C'était pas une tempête, c'était en ciel clair. C'est ça le pire, en fait. C'est la montagne et le vent passe et fait des rouleaux. Donc, on les voit pas, il n'y a pas de nuages. Et nous, en fait, on s'est mis parallèle, qui était juste avant de faire l'approche pour partir à Genève. Et donc, on voit rien, on stabilise. Et en fait, on s'est pris un rouleau de vent. Et l'avion a pris ce qui est maximum, 2G positif, 2G négatif. Tac, tac, comme ça, tapé en 5 secondes. Le cockpit était sans dessus dessous, partout. Je pensais qu'on allait, enfin c'était, on peut même pas contrôler rien. Les hôtesses ont tapé au plafond, elles ont essayé de s'accrocher à des sièges qui sont certifiés. Le siège s'est arraché. Il y a eu des uniformes arrachés. Il y en a qui sont tapés au plafond. Enfin c'était.
Ah tu peux avoir des blessés graves là.
Ah oui.
Ça arrive.
Et en fait ce qui est horrible, c'est qu'on a après bon voilà ça s'est passé en 5 secondes, tout va bien. Bon de toute façon faut continuer, on va atterrir. Quand on est arrivé à Genève. Il y avait Emirates et Turkish avec déjà des ambulances, mais personne nous a prévenu. Ils auraient pu nous dire faites attention et là on vérifiait que tout le monde était bien attaché et tout ça quoi. Puisque ça venait d'arriver.
Toi t'étais attaché ?
Moi j'étais attaché, j'avais attaché les passagers, mais les hôtesses finissaient de.
Ah t'as quand même eu le temps de dire attention machin.
Non mais pas. Non. Moi passer une certaine altitude en fait on met les.
Ah de base.
Voilà de base. Mais les hôtesses finissaient de ranger.
Il y a les cafés, les trucs brûlants, les machins.
Il n'y avait pas là. Elles finissaient de ranger les cuisines, les trucs.
Tu t'es fait frapper par la foudre.
Oui.
En l'air. Mais je croyais que c'était pas grave. J'ai toujours entendu que l'avion il est fait pour prendre la foudre et la redispatcher sur le sol.
Il est fait pour. Il est fait pour. En revanche, ça. Alors nous on l'a eu sur le radome, ce qui est le nez de l'avion.
La boule là, enfin comme.
Ouais, là devant. Et mais normalement, ça fait une tête d'épingle le trou. Et là, nous, on a eu un truc, mais comme ça, je l'ai vu au sol. En fait, il est venu taper. Ça a fait un éclair.
Tu l'as vu ? Ouais.
Ah ouais, ouais. Puis, mais chauffé. Je pensais que j'avais les sourcils brûlés. Et je dis aux copies, j'ai les sourcils brûlés. Et mais en fait, on était dans un orage. Et lui, il me dit, mais on s'en fout, faut. Et je lui dis, mais non, mes sourcils, ils sont brûlés. Sophie, on s'en fout. Et bon, on a atterri, on est allé voir après. Et effectivement, le trou était comme ça. C'était énorme.
Ça, c'est dangereux. Il y a déjà eu des crashs à cause de
non.
La foudre.
Non. Non, en revanche, ce qui est arrivé, c'est que ça a déclenché un extincteur dans le moteur.
Ah, waouh.
Ouais. Oui. Alors, ça n'a pas éteint le moteur, parce que l'extincteur, en fait, il éteint autour du moteur, bref. Mais ça a déclenché un extincteur. Oui, il peut se passer des pertes électriques, des... Voilà.
Légende podcast.
Il paraît qu'il y a un autre truc, c'est l'oiseau. L'oiseau, même les drones, parfois il y a des petits drones.
Les
petits drones DJI qu'on a qui volent à un certain nombre d'altitudes. Maintenant c'est un peu limité, mais il y en a qui les débrident. Ça, c'est d'être un risque vraiment pour les avions.
C'est l'horreur. Alors les oiseaux, il y a une petite parenthèse aussi, les ballons.
Les ballons.
Alors il y a les ballons de. Ouais, les
à
ballons.
Disney, là, qui s'envolent.
Ouais, ça c'est pas encore très grand, mais les ballons météo. Donc ça, on a des notables, donc on a dans le plan de vol, on a fait attention quand on survole tel truc. Hein. Au Brésil, c'est juste un enfer. Il y a des ballons, mais des trucs qui font 2 mètres de haut. Alors je sais pas, mais des dizaines et des dizaines. Et on les voit passer.
Ah ouais ?
En bref, ça c'est les ballons.
Tu les évites ?
Impossible. Nous, on fait du en approche, on est à 300-500 km/h.
Et t'en as déjà tapé ? C'est pas ?
Pas au point de, je pense, parce qu'après, c'est dans les ailes derrière, je sais pas, peut-être. Mais des oiseaux, oui.
Et les oiseaux, ça te, c'est très dangereux, non, il paraît ?
Moi, je suis rentrée dans un banc de chauves-souris à l'atterrissage à Hanoï, au Vietnam. Alors, le cockpit, ben, c'était que des taches noires avec du sang éclaté autour. Il y en avait sur les ailes, il y en avait sur le train. Enfin, bon, on atterrissait, donc ça a été. Une fois, à Munich aussi, on a tapé un oiseau là, sur le bas du cockpit, et il est parti. On n'a rien vu, les moteurs, le truc, ça va. Je descends, je vais voir l'état du moteur.
Il était recouvert ?
Ah, mais c'était du sang.
Pas,
non, en fait, comme il était au minimum, le moteur, puisqu'on atterrissait, c'est passé, quoi.
Wow.
J'imagine. Mais ça peut, si l'oiseau rentre vraiment où il ne faut pas, ça peut, bah, la Hudson River, la Sully.
Bah, les chauves-souris, en plus, au Vietnam, à Hanoï, c'est de la taille de renards volants. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les petites chauves-souris qu'on a en Europe.
Moi, c'était des petites. En revanche, quand on va à Sydney, il y a les Flying Fox.
Bah c'est ça.
Oui, et on a ça sur la météo. Attention, Flying Fox qui croise la piste. Je me dis, c'est quoi ça ?
Ouais, c'est des renards volants, quoi.
C'est comme ça.
Ouais, c'est ça. Comment ils s'entraînent ? Est-ce qu'ils entraînent les moteurs ? Ils font des tests pour voir justement jusqu'où ça tient ?
Alors moi, j'avais vu des tests, je ne sais plus si c'était General Electric ou aux États-Unis, où ils lançaient des poulets congelés dedans.
Ah bon ?
Ouais, pour voir la résistance.
Sympa le boulot du mec.
Ouais, sans cause, c'est aussi WWF, sponsorisé. La marque des moteurs, WWF.
Donc tu pars habiter à Abu Dhabi pour Etihad Airways, qui est une compagnie qui est plutôt luxe, non, Etihad ?
Qui est la compagnie nationale, c'est pas Emirates. Emirates, c'est privé, et Etihad, c'est la compagnie nationale des Émirats Arabes Unis.
Donc, est très luxe, parce qu'ils doivent mettre beaucoup d'argent.
Super
Abu Dhabi, c'est là où il y a le pétrole, hein.
Oui.
C'est très riche. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de... Donc là, tu avais des avions, j'imagine, qui étaient très bien entretenus, neufs, etc. Mmh. Est-ce que tu as bossé dans des compagnies un peu plus limites ?
Oui, bien sûr.
Sans donner le nom, on s'en fiche. Hein,
mais... Non, oui. Bah, après dans quel sens
Est-ce que tu as déjà décollé dans un avion où tu te demandais si ça allait atterrir ?
En cargo, oui, au tout début. Ouais. On avait à chaque décollage, on avait deux avions à la fin. À chaque décollage, il y avait un avion, on avait un feu moteur. Vrai, pas vrai?
Ah oui.
Ah, donc on faisait la procédure, sauf que c'était la même compagnie où on décollait comme ça. Et la procédure de feu moteur, c'est réduire la puissance. Et après, voir, en fait, se pencher, mais comme c'était juste à la rotation, en fait, on n'a pas le temps de faire comme ça parce qu'on risque de partir par là. Donc, fallait d'abord décoller, s'établir, réduire, truc. Et est-ce que c'est vraiment du feu ? Non, ben, ok, confirmé, pas de feu, on remet le moteur.
Vous êtes que deux sur un avion cargo ?
Là, on était. Sur cet avion-là, on est trois. Maintenant, les avions modernes, on est deux. Ouais.
On va parler d'argent dans deux secondes, mais juste là, je te lançais sur cette anecdote. C'est dans quel avion où tu n'avais pas de siège, où tu étais assis sur une valise ?
Alors ça, c'était quand mon premier vol, on avait une escale d'une semaine à Kinshasa. Et en fait, durant cette semaine, il y a un pilote qui pilotait pour une petite compagnie locale qui me dit, bah, viens, on va faire un tour. C'était un avion mi-passager, mi-cargo, un micro-avion. Hein, et c'était des chaises en plastique derrière. Enfin, même les sièges passagers, c'était des chaises en plastique. Et en fait, ils partaient à Chicapa, qui est un tout petit village dans la brousse. Et il me dit, viens faire le vol avec nous. Donc là, je suis partie avec eux en passagère, mais bon, bien sûr, pas de siège pour moi. Et j'étais assise sur une valise. Et puis bon, bref, on fait le vol, j'en passe et des meilleurs. Et le retour, en fait, donc le moteur s'éteint. Ça, les passagers l'entendent, et ça commence, parce qu'on est au-dessus de la brousse, donc pas de lumière, on est de nuit, et ça commence à prier, et à crier, enfin, les Africains, et c'est parti, et on va mourir, et les chants de mort, de trucs et tout. Et puis finalement, on s'approche de la ville, donc il commence à avoir des lumières. Donc là, c'est parti, mais dans l'autre sens, on est sauvés, c'est des chants de joie et tout ça. Et donc, moi, il n'y avait pas de place dans le cockpit, j'étais sur cette valise, donc j'ouvre un peu la porte, j'ai dit, bon, alors, on va bientôt atterrir. Il me dit, le problème, c'est que le train n'est pas sécurisé, descendu, quoi. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, on va essayer d'atterrir, mais peut-être que le train, en fait, en touchant, il va rentrer, quoi. Et moi, je retourne derrière, et là, je me mets discrètement, parce que tout le monde est de joie, et moi, je me mets sur la valise, et je m'accroche comme ça, je me dis, putain, on va se cracher, on va se cracher.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Et en fait, c'est passé. C'est
passé. Wow.
Ouais, il était sécurisé, mais ils n'avaient pas le voyant de...
Putain, faut aimer l'avion, hein.
Ouais.
Faut quand même être fan de ça, hein. Combien ça gagne un pilote et après un commandant de bord?
Bip. Ça gagne bien, moins bien qu'avant. Après, ça dépend de la compagnie. On va dire que
en net, hein, qu'on imagine.
Alors, comment ça se calcule en... Je vais dire que en net.
Donc,
un copie, c'est à peu près 6 000. Et un captain, ça va je vais dire 10 000.
10 000. En début de carrière, en fin de carrière, ça va jusqu'à...
Début de carrière,
en début de carrière.
Ouais. Je crois qu'un... Alors, j'oserais pas m'avancer, sinon je vais me faire lyncher, mais je pense qu'un Captain Air France, à la fin, il doit être dans les 15-17.
D'accord.
Ouais.
Et sur un A380, chez Etihad, alors, tu espérais combien?
En fait, le salaire est le même. Chez Etihad, on était bien payés parce que c'est un pays hors taxe, donc il n'y avait pas d'impôts. J'ai découvert les impôts en 2020.
C'est-à-dire, jusqu'à combien tu as pu gagner là-bas?
Après, ils nous donnaient aussi pour nous loger. Il faut savoir que...
Non, mais le but, c'est de faire aussi rêver et de créer des vocations, cette émission.
Ah bah oui,
c'est pour
oui,
ça que c'est bien de dire les belles choses. Et c'est pas du tout... Au contraire, c'est positif, tu vois.
Plus tu
gagnes, plus c'est chouette.
Oui. Alors, plus on fait de vols sur long courrier, parce qu'en fait, on a un salaire de base et puis après, on est payé à l'heure de vol. On est défrayé à l'heure de vol et où dans les endroits où on va sur long courrier, en fait, le salaire monte puisque les vols sont plus longs. Quoi.
Alors, jusqu'à combien tu as pu monter?
Moi, j'ai eu... j'ai dû faire du 15 000.
Du 15, ok. Mm. Sur la 380?
Ouais. Hors taxe.
Ah oui. Sans impôt?
Sans impôt.
Ils te logent en plus?
Non. Ils nous donnent de l'argent pour nous loger, parce que ça coûte excessivement cher là-bas. C'est 4 000 euros à peu près un loyer. Donc voilà, l'école, pareil, 15 000 euros.
Ils te donnent un peu d'argent en plus?
Ouais.
D'accord.
Ouais, sinon, personne n'irait.
Sinon, tu redépenses tout pour habiter là-bas.
Oui, et puis le but, les gens vont là-bas pour gagner de l'argent, quoi.
Pour parler d'une belle chose, pour terminer, quelle est la plus belle chose que tu as eu la chance de voir en avion? Toi, t'as la vue.
Mais des trucs... Alors, ce qui est paysage, la plus belle chose, c'était mon premier vol dans cette compagnie charter en Belgique. En fait, on a fait une mise en place, on est arrivé à Los Angeles, on a fait le retour jusque Bruxelles. Donc, on décolle de Los Angeles en fin d'après-midi. On a vu le coucher de soleil sur le Grand Canyon. On est remonté, on a fait les aurores boréales sur le Canada, le lever de soleil sur le Groenland... Et après Bruxelles.
Waouh.
Et je me suis dit, waouh.
Bah, en une journée?
Ah, bah sur un vol, ouais.
Enfin, sur un vol.
Sur 12 heures de vol, c'était juste magnifique. Après, bah voilà, c'est le survol de l'Himalaya, des pyramides en approche au Caire, c'est assez sympa à voir aussi, ouais.
Tu sais combien t'as visité de pays?
Ce que t'as noté? En fait, combien, je ne sais pas, j'ai fait tous les continents, il y a juste la Russie. Et Tahiti, mais bon, Tahiti, je l'ai tous les jours parce que mon copain est tahitien. Mais voilà, c'est deux seuls endroits où je suis pas allée, en fait.
C'est un fort. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux qui ont du jet lag, un décalage horaire? Comment on récupère vite d'un décalage horaire? Est-ce que tu as un truc?
Alors, il y a...
En tant que commandant de bord.
Ouais, il y a la mélatonine qui est super, qui est autorisée maintenant en France, qui l'était pas il y a quelques années. La mélatonine, en fait, c'est ce qui reproduit l'hormone
du sommeil,
à savoir qu'il faut vraiment être dans le noir, donc c'est dormir avec la télé, les trucs, enfin, je veux pas faire ma vieille... les écrans, c'est pas... Mais sérieusement, c'est vraiment dans le noir, et après, ça dépend de l'être humain, il y en a qui s'acclimatisent tout de suite, moi, c'est mon cas, si par exemple j'atterris, il va faire nuit, je vais essayer de dormir tout de suite. Il y en a qui restent dans le pays d'où ils viennent, aux horaires. Ça dépend. Mais mélatonine, ça aide très, très bien. Et c'est légal.
Pour parler de ta vie de famille, tu as des enfants?
Oui, deux.
Deux. Mmh. Comment ça s'est passé, ta vie sociale et amoureuse, en étant commandant de bord? Est-ce que c'est plus dur?
Deux divorces. Non, parce qu'on n'est jamais à la maison, en fait.
Après, ça arrive à des gens qui ne sont pas
plus. Non, 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 mais c'est sûr que voilà,
ça
aide pas pour la vie de famille. Donc moi, je me suis retrouvée à élever mes deux enfants toute seule, quasi. Aux Émirats, j'avais la chance de pouvoir employer une nanny, en fait, une maid. Qui était là à la maison quand moi je partais en vol, mais en Europe, franchement, chapeau, si on n'a pas de famille, c'est dur.
Le papa était pilote ?
Il y a le papa de mon fils qui était chef de cabine à Air France.
Ah, ok.
Ouais. Donc lui, il connaissait bien le milieu, et puis le suivant, non, pas du tout.
Il y a des photos de toi, là c'était.
Ça, c'était mon saut en parachute. Un pilote, ça saute pas d'un avion, normalement.
Alors, c'est très mauvais signe.
Surtout quand l'avion est en marche. Donc, oui, alors j'ai essayé le saut en parachute.
Et là, on te voit.
Alors ça, c'était mes débuts captain. En fait, comme j'avais 23 ans, là, je pense, et je faisais super jeune, et personne voulait... J'arrivais pas à avoir d'autorité. Et comme j'avais quand même déjà un petit peu d'humour, je me suis dit, je vais acheter une grande calculatrice, un gros crayon, et pour dire, c'est moi le chef, là, maintenant. Bon, ça n'a pas marché.
C'est ton enfant ?
Ça, c'est mon fils, ouais.
Ton fils, que ouais. Tu l'emmènes parfois en vol ?
Ah, je les emmenais tout le temps avant. Alors ça, c'était en cargo à l'époque. Donc là, ils avaient le droit encore cargo, il n'y a pas de passage. Puis c'était avant Germanwings et tout ça, là. Ils pouvaient rentrer dans le cockpit. Après, j'ai prenais chez Etihad aussi, ouais.
Et après, c'est tu
alors là, on partait à Khartoum et il fallait qu'il change son visa, donc je l'avais pris avec. C'est
là,
sur l'avion
pilote,
cargo.
Déjà, ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Tu venais t'en occuper. C'était ouais. Trop marrant. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ton enfant ou tes enfants quand t'es en l'air et que t'as pas de nouvelles? Est-ce que t'as déjà eu une galère avec ça?
Ah, j'ai eu une énorme galère avec mon fils. Alors ça, c'était par rapport à la loi aux Émirats. Donc en fait, tu peux pas aller avec un enfant qui n'est pas le tien aux urgences. Donc moi, j'étais au Brésil. On était à Sao Paulo. J'allais rentrer dans l'avion, donc fermer les portes avec... On avait 16 heures de vol pour rentrer. Et là, j'ai la nanny qui m'appelle et qui me dit voilà, ça fait le troisième hôpital qu'on fait. Et donc le gamin, je ne sais plus quel âge, il était tout petit. C'était au mois d'août, donc il fait 50, 55 degrés à peu près là-bas. Et il était en train de se déshydrater. Donc,
ce qui est très mauvais.
Voilà. Et en plus, il était tout flué, quoi. Et elle me dit troisième hôpital qu'on fait, personne nous accepte aux urgences vu la loi, quoi. Et elle, comme elle était philippine, bah c'est clair que c'était pas de la même famille, quoi. Et donc je lui dis bah passe-moi le médecin, je parle et il me dit bah non, inchallah vous rentrez. Et je lui explique mais je suis dans le premier vol pour rentrer, donnez-lui au moins un médicament négatif.
C'est vrai ?
Négatif, il a pas voulu. Et en fait bah on a dû fermer les portes et moi de toute façon je vais pas rester au Brésil, c'est le moyen le plus rapide de rentrer. Donc on ferme les portes. Alors voilà, ça a été 16 heures d'enfer à me dire mais qu'est-ce qui va se passer avec le gamin ? Mmh. Et en fait entre temps j'ai su que il a été accepté au franco-émirien. Par un médecin, qui m'a appelé le lendemain, qui m'a passé un savon, mais extraordinaire, parce que j'aurais dû prendre les devants, de faire une.
Ah, waouh! Ouais, c'est là où les.
Ouais. Ouais.
Quand il y a trop de règles, ça tue la logique.
Mais voilà, donc ce qui est angoissant, c'est d'être à l'étranger, et puis s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Est-ce que la Terre est plate? Non, je voulais.
Alors, j'ai une amie.
Le 11 septembre 2001, les tours jumelles, y a l'attentat du 11 septembre avec les deux avions et tous les autres avions d'ailleurs qui sont détournés ce jour-là. T'étais déjà pilote?
Alors, j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767 qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour.
C'est vrai?
Non, jamais.
Pourquoi? C'est parce que c'est... Enfin, des techniques?
C'est parce que la Terre est plate. Non, c'est parce que... Je sais pas. Ils ont dû avoir quelque chose.
Entraînement, tu veux dire?
Nous, on était qualifiés sur cet avion. On n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc, ils devaient avoir un guidage spécial ou je sais pas. Enfin bon, bref, pardon.
Non, c'est intéressant, c'est intéressant.
Je m'éloigne.
Pourquoi? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse-là.
Bah, c'est dur d'être... quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre, parce qu'il faut avoir ou moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si
donc
large
que ça. Ils étaient très expérimentés.
Mais il l'était pas, puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs.
Ah oui, oui. Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que quand il se passe ça, après, tu étais beaucoup plus méfiante avec la porte? Est-ce que tu fais beaucoup plus attention?
Moi, je veux dire non. En tant que passagère, oui. En tant que pilote, non.
Il y avait les portes avant blindées?
Non, avant la porte était ouverte avant.
C'est fou.
Mais oui, et c'est génial, parce qu'en fait, on avait une communication avec les passagers. C'était sympa.
Ah oui, maintenant, c'est...
Combien de fois on a eu des passagers qui avaient peur des turbulences? Bah, fais l'avenir dans le cockpit, et puis voilà, tu vois, regardez, ça se passe bien.
Ça arrive encore.
Les gamins qui venaient, c'était génial, ça donnait des vocations, ils adoraient ça. Maintenant, bah, c'est quand on est à l'arrêt, puis surtout pas prendre de photos, parce que le droit à l'image, le truc... Là. C'est un enfer, un enfer. Et si jamais nous, on prend des photos en vol et qui sont publiées sur les réseaux, on peut se faire virer par la compagnie parce que ça montre qu'on n'était pas concentré sur le vol.
Ah, wow.
Donc, on ne regarde jamais de film en vol.
Les gens de podcast.
Je me suis toujours posé une question. Pourquoi ils n'ont jamais fait de toilettes dans les cockpits pour que les pilotes n'aient plus à sortir, tu sais, une mini-cabine toilette?
Alors, c'était fait dans le 380, c'est ce qu'on avait en fait. Puisque comme le cockpit se situe entre le premier étage et le deuxième, ils ont décidé de mettre une porte, une privacy porte ici, et avec un code. Et bah après, ouais, l'escalier, on avait les couchettes, le toilette
ça
et le cockpit.
Bah ouais, d'accord. T'as eu de la police? Il paraît qu'aux États-Unis sur les vols, il y a de la police ça?
Ouais.
Tu sais pas qui c'est d'ailleurs?
Non. Comment ils s'appellent, les rangers ou un truc comme ça?
T'as toujours un mec armé sur un vol?
Ouais.
Mais tu ne sais pas qui c'est. Il y a eu un film avec Liam Neeson, si je ne dis pas de bêtises, sur ce sujet. Les requins, ils ont toujours voulu qu'il y ait une arme à bord, au cas où il y avait des terroristes pour les arrêter.
Mais, alors ça dépend des compagnies. Hein. Je sais qu'à l'époque, on en avait. Ça dépend si la compagnie l'accepte ou pas, en fait.
Et d'ailleurs, il y a un truc qui est particulier, c'est qu'ils doivent agir qu'en cas de terrorisme. Et s'il y a une bagarre, ils ne doivent pas intervenir pour pas que les terroristes fassent semblant de se battre.
Ouais.
Et que le mec disait, on se calme, machin, comme ça, après, ils savent qui c'est, etc. Donc, le but du jeu, c'est de rester stoïque, même s'il y a une énorme bagarre, il doit rester assis et faire comme si de rien n'était, quoi.
Ouais, c'est logique, ouais.
Je ne sais pas si je dis une connerie, mais
non, ça m'étonnerait pas.
Ouais. Y a eu aussi le suicide de la Germanwings, on en parlait. Le 24 mars 2015, c'était un Barcelone Düsseldorf, la compagnie Germanwings, du coup. Il a pris son avion, si vous vous en rappelez pas, il l'a fait s'écraser volontairement dans les Alpes. Il y a eu 150 personnes qui sont décédées. T'as été surprise de voir ça?
Je sais plus où j'étais à l'époque. Bah, c'est écœurant. Enfin, pour moi, c'est en tant que pilote, c'est juste horrible. Ce qui a fait suite à ça, c'est que maintenant, on a des tests psychologiques. Parce que ce qui était vraiment l'horreur, c'est d'avoir laissé ce type voler sans voir. Il y avait quand même huit médecins différents.
Putain.
Ouais. Alors c'est sûr que parfois il y a des gens avec des collègues un peu borderline, quoi. Mais là, c'était. Je pense que.
Il y avait vraiment des signaux qui étaient forts, quoi.
Et puis on fermait le collègue. Parce que maintenant, depuis Germanwings, on peut plus être deux dans un. On peut plus être seul, pardon, dans un cockpit.
Ah, c'est vrai?
Ah oui.
Ah, ça c'est intéressant.
Ah, c'est une nouvelle procédure.
Donc, ouais. T'as une hôtesse que tu vas faire pipi
tout le temps. Ouais. Alors il y a eu des choses qui n'ont pas été tout à fait comprises au début. C'est qu'en fait l'hôtesse, elle vient, mais elle est là pour ouvrir la porte mécaniquement, parce qu'en fait on a quand quelqu'un veut rentrer, il sonne. Voilà. Après il y a un code d'urgence que seul l'équipage connaît. Donc lui, il sonne, la caméra s'allume, on voit, on connaît, hop, on déverrouille. En revanche, si on voit que c'est un terroriste ou qui tient voilà quelqu'un, on verrouille. Lui, l'hôtesse est là, c'est si jamais le pilote verrouille, elle est là pour ouvrir la poignée mécaniquement. Mais au début, c'était confus. Donc, comme il ne l'avait pas bien expliqué aux hôtesses, dès que le copilote ou le capitaine qui était seul dans le cockpit entendait une clearance, donc tourner ou monter, descendait, il voulait toucher, l'hôtesse lui sautait dessus pour pas qu'il touche. Mais lui, s'il devait tourner, c'était pour pas rentrer en collision avec un autre avion. Donc, il y a eu des trucs, mais de fou, quoi.
Ah, wow.
Bah, pas de crash, mais... Mais il a fallu bien réexpliquer à quoi servait l'hôtesse.
Quand tu vas aux toilettes, tu te poses toujours la question?
Dernièrement, non, parce que le 380, justement, il y avait la porte. Mais oui, on regarde... moi, j'essaie d'aller le moins possible.
Il y a une dernière théorie du complot. Je vais aborder ce sujet avec toi. C'est les chemtrails.
Oh, mais non.
C'est des traînées dans le ciel. Et il y a ça partout sur Internet. Il y en a plein qui pensent que c'est vrai. Hein. J'ai vraiment
Alors, je vais casser le mythe. Hein.
Attends, je vais expliquer ce que c'est.
Ouais,
Chemtrails, ouais. Chemtrails, je ne sais pas comment on prononce.
Chemtrails.
Ouais. C'est des traînées que vous voyez, en fait, qui sont faites par les avions lors du passage. C'est des moteurs à combustion. Tu vas nous expliquer ça mieux que moi. Et il y en a qui pensent qu'il y a des boutons dans les avions pour passer du produit qui peut rendre stérile, qui peut tuer des gens, qui peut apporter
tout,
des maladies, qui peut... des trucs électromagnétiques, il y a plein de... voilà. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est juste de la condensation. Parce qu'il y a un taux d'humidité,
c'est
en fait.
C'est comme ta voiture quand il fait froid et que tu démarres.
Bah quoi. Voilà, c'est ça. Les moteurs génèrent de la chaleur. Il fait froid, il y a de l'humidité, ça fait de la condensation. Alors, pour vraiment casser le truc, c'est quand on voit les avions de ligne qui sont à peu près à 10 000 mètres d'altitude, 10 km. Quand on largue du fuel dans le ciel, ce qui m'est arrivé la dernière fois, ça s'appelle du jettison, on a une altitude minimum de 5 000 pieds. Ce qui équivaut à 1000 mètres, à peu près, 1800 mètres. Pour pas que le fuel, en fait, se désintègre et il ne viendra pas se déposer sur les maisons, sur les êtres humains. Donc, quel serait l'intérêt de décharger du liquide à cette altitude-là, alors qu'il va se désintégrer avant de tomber et être efficace pour calmer les foules? Voilà.
Voilà, bah c'est merci. Merci hein, pour cette explication. Hein. Dernière question, elle est de quelle forme la Terre?
Alors, d'après les chemtrails, elle serait ronde.
Oh, j'ai pas réussi. Je suis d'accord avec toi, bien évidemment, mais c'était pour la blague. Tu veux. Continuer ce métier combien de temps? Tu l'aimes ce boulot?
Tant que je prends du plaisir le plus tard possible. Là, j'ai eu un peu de les licenciements, le Covid, ça a vraiment été dur. J'ai cru que c'était fini d'abord, parce que pas d'espoir. Hein. L'aviation était quasi morte. Et puis c'est revenu, et puis ça a été dur de m'y remettre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime ça. Ouais. Donc.
Maintenant, tu bosses sur des avions.
Cargo.
Cargo. Mmh. T'es basé où?
À Toulouse.
T'es revenu en France.
Ouais.
Les avions cargo, c'est lesquels? Comme ça, on mettra une photo de l'avion.
Sur le Beluga, qui ressemble à un Beluga, donc on l'appelle un Beluga.
Avec une sorte de bosse.
Voilà, une grosse bosse. Alors sur le ST, l'ancien, hein, pas celui qui a les yeux et le sourire là, le XL.
T'es spécialisé dans les gros avions quand même.
Ah bah c'est un avion hors norme, hein, complètement hors norme. Mais qui est, en fait, c'est retour qui est beaucoup. C'est pas du fly-by-wire comme les nouveaux avions. C'est, on tire encore sur des câbles et c'est génial.
J'ai pas compris fly-by-wire.
Maintenant,
j'ai fait semblant, j'ai fait.
Maintenant, les avions sont fly-by-wire. Il n'y a plus de câbles dans les avions, c'est que des impulsions électriques.
Okay.
Voilà, donc de tout ce qui est 320, 330, 380, 350. Boeing, on en parle pas.
Oui, tu tires pas. Que... c'est comme une moto. Il y a des câbles quand tu tournes la poignée. Et puis maintenant, il y en a, c'est des capteurs, quoi.
Voilà, c'est exactement ça.
Ou les freins, ouais.
En revanche, celui, le Beluga sur lequel je suis, c'est encore les câbles. Donc, c'est retour au vrai pilotage.
T'as pas de direction assistée, en gros.
On va dire ça comme ça, ouais.
Merci d'être venu.
Bah, merci.
Ça t'a plu de faire l'interview?
Oui.
Ça va? C'est pas facile de faire une première interview.
Ben non, puis mais ça va, c'est super relax. Je conseille à tout le monde. Et je vais surtout essayer de vous envoyer mon ami, là.
Parce que c'est ton fils qui t'a parlé de l'émission, et
ouais.
Tu l'as regardé, et puis après, tu t'en as regardé quelques-unes.
Ah ben, je crois que je les ai toutes regardées, ouais. Ah, j'ai adoré, j'adore le concept, c'est...
Bah écoute, ouais. Ça y est, t'es dedans.
Ouais, c'est super
c'est
de m'avoir invité.
Si vous voulez faire comme Sophie et passer en émission, vraiment, là on est aujourd'hui dans un loft à l'occasion de Velux, hein, voilà, pour montrer aussi les fenêtres de toit, comment ça éclaircit un espace, etc. Comment ce loft, on est ici, ressemblait à ça avant. Vous voyez les photos et comment il ressemble à ça aujourd'hui, comment on peut gagner de l'espace et vivre dans un endroit hyper lumineux, etc. Si vous voulez faire comme Sophie et passer avec nous, venir sur le plateau, pourquoi pas peut-être ici une nouvelle fois, il faut juste m'envoyer votre numéro de téléphone et un petit mail avec des explications de pourquoi vous voulez venir, ce que vous pouvez raconter, ce qui vous est déjà arrivé de fou dans votre vie, avec votre numéro de téléphone, un petit mail à contact@legendegroupe.fr. Je voulais juste montrer le setup comme à chaque fois, pour montrer comment s'y installer. C'est très important de faire ça, comme ça vous voyez l'équipe, donc Sophie que vous avez vu, Mathieu qui est ici, qui est canadien, voilà, qui est venu nous rejoindre il n'y a pas longtemps. Québécois, pardon. Seb ici qui tient la caméra, qui anime les émissions ou qui m'aide pour faire des jolis plans parce que voilà, il y a la caméra dans la main. Margot qui est maquille, pardon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas être à l'image, pardon, excuse-moi. Comment tu t'appelles?
Thomas.
Thomas qui bosse chez Velux et qui est venu nous faire un petit coucou. Et Jules aussi qui est derrière ici. Comme ça, vous voyez comment on s'est installé. On a mis un petit néon rose caché là-bas. Et voilà, mec, ça c'est pour les techniciens, hein, ceux qui aiment vraiment la technique. Les câbles, on a enlevé les câbles de ce néon-là, c'est sur batterie. Et je peux vous mettre la référence, sinon dans la description. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé l'émission. Salut Sophie, merci d'être venue encore jusqu'à nous, jusqu'à Paris.
Merci.
Et on se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Gros bisous.
Légende Podcast.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.